Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous commencez à être fatigué comme moi. Fatigué de parler, j'ai parlé toute la journée. Bon, mais je pense que c'est bon. Oui, parce qu'on dit des choses qui sont vraies. Quand on met nos dons sur l'autel devant le Seigneur, on arrête de se plaindre qu'on n'a pas d'opportunité de parler. Et puis, on fait notre ministère, eh bien, Dieu vous donne toutes sortes d'opportunités. Mais j'imagine que le point doit être là où on se rend à Dieu et puis qu'on est prêt à s'attendre à son temps. Et puis, c'est ça un peu qu'on expérimente. Donc, on va parler brièvement au début. Donc, j'ai intitulé un message une fois « Les affaires de la famille ». Je l'ai pris de Ted Tripp. Vous connaissez Ted Tripp? Être le berger du cœur de son enfant. Je l'ai écouté. Et puis, il a lu un passage des Écritures dans les psaumes qui parle des affaires de la famille. Donc, je vais lire un peu là-dessus. Et puis, je vais parler du rôle de la famille. Et puis, on va parler de nos autres deux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je pense que nos enfants deviennent quelque chose dépendamment des influences qui viennent vers eux. Donc, pour ça, je pense que l'école de la maison est tellement importante parce qu'elle affecte la destinée de nos enfants. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui bombardent nos enfants, qui veulent rentrer puis influencer leurs pensées. Et puis, ces choses-là vont former leur façon de penser. Donc, à 17 ans, donc 63 000 heures au travers desquelles ils vont avoir été influencés par les différents médias. Donc, c'est un vieux statistique de l'année dernière. Donc, probablement que ça l'a déjà augmenté. Dans les écoles, 11 000 heures. Avec les parents, 2 000 heures. À l'église, 500 heures. Donc, on voit ici les différentes influences. Donc, en tant qu'éducateur à la maison, on ajoute les heures qui sont à l'école. Donc, ces heures-là peuvent être ajoutées. Ça augmente quand même, mais si on prend un étudiant moyen avec 2000 heures d'influence de la part des parents, à comparer à 65 000 heures qui viennent des médias, donc ça fait du sens. Je pense que ça nous montre que les différents médias ont plus d'influence que leurs parents. Donc, c'est tellement important pour nous de faire ce qui est convenable, de prendre le temps. Puis dans une des sessions, dans le passé, on a parlé de faire le sacrifice financier, de s'assurer qu'on peut prendre le temps nécessaire avec nos enfants. Donc, les heures des études, les 11 000 heures à l'école, peuvent être ajoutées avec les heures que le parent passe avec ses enfants. Donc, pour ceux qui font l'école à la maison, donc on voit 11 000 plus 2 000 qui sont ajoutés. Donc, quand on fait l'école à la maison, nos enfants sont avec nous, c'est une bonne chose. Je pense qu'en 1997, on a écouté un orateur. Vous reconnaissez, j'imagine, le président Bush, senior. Puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué en 1998, à Calgary. Quand j'étais avec le groupe Investors, j'ai eu l'opportunité d'aller à cette conférence. Donc, il était notre orateur. Ce qui m'a impressionné, c'est ce qu'il a dit. Il a parlé des titres qu'il avait eus. Il a parlé des titres qu'il avait reçus et ceux qu'il voyait comme étant les plus importants. Il a été président, vice-président. Il a été au Congrès un ambassadeur, directeur de la CIA. Il est également un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Mais son titre le plus important, selon lui, père, mari, grand-père. Et puis j'étais quand même émerveillé d'entendre cela, parce que d'avoir été le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis, mais le plus important titre que j'ai jamais eu, la plus importante position, c'était d'avoir été mari, père et grand-père. Parce que quand on parle d'influence, c'est une position d'influence. En tant que parents, nous sommes dans une position d'influence avec nos enfants. Et nous pouvons les influencer. Nous pouvons influencer ce qu'ils vont devenir. Donc, rapidement, l'écriture que Ted Tripp a utilisée, et puis il a parlé des affaires dans la famille. Donc, il a référé à ce psaume comme étant le psaume de la famille. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Donc, parfois des choses qu'on voit dans les Écritures. Comment est-ce que nos enfants vont-ils connaître l'amour de Dieu, les choses de l'Évangile, l'intérêt que Dieu a pour eux si on n'en parle pas? Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient. Est-ce que ce n'est pas ça notre rôle, notre fonction? Et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc, la foi, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. À moins qu'on parle des choses de Dieu, les enfants n'auront rien même à oublier. Nous voulons vous encourager afin que vous puissiez savoir que ce que Dieu a fait dans nos familles, Dieu a le désir et veut le faire également dans vos familles si vous vous soumettez à Dieu. J'aimerais ajouter aussi, Lorne, que parfois on pense que nos enfants connaissent quelque chose. Vous avez des histoires de votre passé, vous les connaissez. Et puis, vous réalisez peut-être pas que vos enfants ne connaissent pas ce qui s'est passé dans votre enfance, à moins que vous leur en parliez. Et puis, peut-être les enfants vont demander, « Maman, raconte-nous une autre histoire de ton enfance. » Vous avez déjà entendu ça, cette question-là? Les parents de Lorne étaient dans le ministère à temps plein, et puis ils nous ont raconté toutes sortes d'histoires miraculeuses. Même dans les années qui viennent de passer, dans le ministère. Je me demande si mes enfants connaissent les histoires de son père. Est-ce qu'on leur a dit des temps où ils n'avaient pas de nourriture, puis un camion est passé, et puis un poisson est tombé du camion? On ne pense pas à ces choses-là. Mais son père, il y avait juste des légumes et puis du thé. Juste des, je pense que c'est comme des patates, ça, des turnips, des navets. J'avais 2-3 ans. Tout ce qu'il y avait dans la maison, c'était du thé puis du navet. Puis mon père priait, « Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère, mais on n'a pas de nourriture. On n'a pas de famille dans les environs. Tu nous as promis de pourvoir. » Et puis en regardant à l'extérieur de la fenêtre, il a vu un camion qui passait avec des poissons. Et puis quand, à chaque fois que le camion frappait un trou, il y avait un poisson qui tombait. C'est arrivé 2 ou 3 fois, environ directement en avant de notre maison. La question était, est-ce que je suis assez humble pour sortir dehors puis ramasser le poisson à terre? Même quand la provision est là, des fois, on doute la provision de Dieu. Mais pour lui, il était un peu embarrassé de sortir puis de ramasser son souper, mais quelques voitures sont passées. Les voitures sont passées, puis ils n'ont pas roulé sur les poissons. Puis finalement, il est sorti, et puis on a mangé du poisson avec du navet. Je réalise que quand notre fille était à Vancouver, elle travaillait sur un projet, et puis elle nous a téléphoné, elle nous a envoyé un texte. « Maman, est-ce que tu te rappelles d'histoire de grand-maman puis grand-papa? » Et puis je lui ai raconté cette histoire-là, puis elle dit « Wow, je ne connaissais pas cette histoire-là. » Vous savez, des fois, on s'en rappelle de l'histoire, on l'a entendu plusieurs fois, puis c'est facile d'oublier de passer cette histoire-là. Donc, je vous encourage à considérer les histoires que vous voulez raconter. Racontez ces histoires-là où vous avez vu la main de Dieu dans vos vies. Le but derrière raconter ces histoires-là, c'est pas juste pour raconter l'histoire, mais les Écritures ici nous disent « afin qu'ils puissent dire à leurs enfants dans les maisons, afin qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu et ne pas oublier les œuvres de Dieu et garder ses commandements, puis ne pas suivre l'exemple de leurs ancêtres, ceux qui n'ont pas suivi les voies de Dieu, ceux dont l'esprit desquels n'était pas fidèle à Dieu. » Donc, quand vous regardez ce à quoi Dieu nous appelle, on se rend compte qu'on a la responsabilité de dire des choses à nos enfants, pas juste pour leur raconter des histoires, mais afin que ça puisse amener un intérêt en Dieu. Parce que Dieu est intéressé dans ce qui se passe dans leur vie, afin qu'ils puissent avoir une confiance en Dieu. Maintenant, nos enfants sont loin de la maison depuis déjà 3 ans. Mais j'ai toujours des conversations avec eux, avec des textes, ça semble plus pratique pour eux, parfois sur Skype, occasionnellement ou rarement sur au téléphone. C'est incroyable comment est-ce que les choses ont changé. Quand j'étais au collège, c'était toujours avec le téléphone ou une lettre. Qui envoie des lettres maintenant? Maintenant, c'est souvent avec des textes. Et puis, je rappelle constamment à mes enfants que Dieu veut être un acteur principal dans leur vie. Je vois ça comme un rôle important que j'ai toujours en tant que père. Notre fille la plus jeune, mais laissez-moi terminer premièrement ces diapositives, puis après je vais parler un peu plus de nos deux filles en particulier. Donc, parler des choses qui sont cachées. Jésus a dit, je vais ouvrir ma bouche pour parler en parabole. Donc Jésus, il a parlé en parabole, il a dévoilé des choses qui étaient mystérieuses. On a besoin de faire la même chose, d'expliquer ces choses-là à nos enfants. Le rôle du Père est de rendre visibles ces choses invisibles. Le Seigneur m'a montré tellement de choses à partir de l'histoire d'Isaac et Abraham. Si vous pensez au rôle d'Abraham, Isaac a parlé à son père, puis lui a dit, « Père, voici le feu et le couteau, mais où est l'offrande? » Puis Abraham doit répondre à cette question-là. Il a répondu, « Dieu va pourvoir lui-même. » Donc, les deux sont montés ensemble. Donc, la partie importante, quand nos enfants posent des questions qui nous mettent au défi, on a besoin d'avoir une réponse. La réponse qu'Abraham avait n'était pas nécessairement pour amener une solution au problème, mais pour pointer son fils vers la solution du problème. On ne peut pas toujours trouver une solution aux problèmes qui nous sont posés par nos enfants. Il n'y a pas toujours de solution. Mais on peut les diriger vers une source qui, elle, peut toujours répondre. Et puis cette source, c'est Dieu. Le but de cela est de diriger leur cœur. Puis Abraham a levé les yeux et il a vu un bouc dans le buisson. Donc, ce qu'il a dit Dieu allait le faire et il l'a fait. Dieu pourvoira lui-même jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est indépendamment des besoins de vos enfants, le Seigneur va pourvoir pour eux. Nous devons les diriger vers le Seigneur. Si on ne les dirige pas vers le Seigneur, est-ce qu'on peut dépendre sur l'Église? Est-ce que c'est la responsabilité de l'Église que nos enfants soient toujours dirigés vers le Seigneur? Est-ce que c'est la responsabilité de l'école? Non, je ne pense pas. C'est notre responsabilité en tant que parents. Cela nous a été donné d'entraîner, d'élever nos enfants. Nous devons les diriger. Combien d'entre vous, vous avez un enfant qui est complètement différent du premier que vous avez eu? Oui, c'est ça que je pensais. Puis des fois, on se demande d'où vient cet enfant. Est-ce que je l'ai commandé du catalogue Sears? Ils ont le même père, la même mère. Mais le deuxième enfant vient totalement différent. Donc, avec notre premier garçon, tout va bien. Puis on a cette petite fille-là. Et puis elle a une volonté très propre, indépendante. Vous allez avoir un enfant qui va avoir une volonté très forte et très propre. Donc, elle était dans le système public de l'école. En deuxième année, j'ai reçu une lettre. Puis, il disait qu'elle aurait besoin d'avoir de l'aide parce qu'elle était en arrière. Et puis, plus tard, j'ai découvert qu'elle avait une dyslexie légère. Donc, j'ai un fils qui a de la misère à l'école, il a de la misère à lire, il est distrait, il y a beaucoup de bruit. Il aimerait mieux boucher ses oreilles que n'importe quoi d'autre. Puis elle aussi, elle avait de la misère. Donc, je les ai sortis. Mais j'ai rapidement réalisé que d'enseigner ma fille, c'était très différent que d'enseigner mon fils. Et puis, quand je venais le matin, et puis elle, par contre, elle venait dans son sac de couchage, toute cachée. Donc, elle aimait ça dormir le matin, vous savez? J'ai découvert qu'elle haïssait vraiment se faire dire que c'était le temps de faire des mathématiques dans l'après-midi à 2 heures, puis que maintenant, elle devait le faire. Donc, ça, c'était vraiment pénible. Donc, j'ai appris à faire avec elle. J'ai appris à lui dire qu'aujourd'hui, tu dois faire tes mathématiques. Donc, ça lui donne un peu plus de contrôle. Donc, elle se sent un peu en contrôle. Donc, je vais le faire à 7 heures. Je ne vais pas le faire quand ma mère veut que je le fasse. On dirait que des fois, ils ont besoin d'avoir un peu de contrôle. De penser puis de ressentir qu'ils ont un peu de contrôle. Donc, elle, par exemple, des fois, elle pouvait faire ses mathématiques le soir dans son lit à 10 heures. Donc, parfois, vous allez avoir un enfant qui est vraiment difficile, puis vous pensez que c'est important que vous soyez en charge, puis personne ne va vous dire quoi faire, puis personne ne va résister votre autorité. Donc, c'est important qu'ils puissent se sentir qu'ils ont un certain contrôle. Donc, on a appris graduellement à l'enseigner d'une manière différente. Aujourd'hui, à 23 ans, pour elle, elle a toujours des buts dans sa vie. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, comment est-ce que ça s'est arrivé? Je ne lui ai pas entraîné à toujours se fixer des buts dans sa vie, mais vous savez, quand vous faites des choses avec vos enfants, le Seigneur est aussi en train de les enseigner. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours réaliser ce que le Saint-Esprit est en train de leur enseigner. Donc, il nous aide. Maintenant, quand je regarde à Laura, elle a développé un grand intérêt avec les vidéos, faire des vidéos, puis de faire de l'édition vidéo. On avait un petit business avant qu'on faisait des enregistrements vidéo pour des mariages. Donc, au lieu de la forcer à faire de la science et de l'histoire, puis je sais que vous avez besoin d'en faire quand même, mais maintenant que je termine l'école à la maison, des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû faire plus de mathématiques, puis ils auraient dû être meilleurs en mathématiques. Puis en tant que mère, on va toujours avoir ce sentiment-là qu'on n'en a pas fait assez ou on devrait en faire plus. Je me disais, j'en ai pas fait assez aujourd'hui. Éventuellement, on a acheté un ordinateur Mac. Mac est très bon pour l'édition vidéo. Puis elle a beaucoup été impliquée là-dedans. Donc, elle ne voulait pas être comme son frère. Elle ne voulait pas aller à l'université. Elle ne voulait pas être comme son frère David. Les plus jeunes ne veulent pas être comme les plus vieux. Donc, lui, c'est l'enfant qui a fait l'école à la maison, le parfait, là. Mais elle, ce qu'elle voulait faire, elle voulait travailler. Donc, moi, ce que je lui disais, c'était que c'est important d'étudier, mais aussi de travailler, d'avoir des objectifs dans la vie. Donc, à 16 ans, elle a commencé à travailler chez McDonald's. Puis là, elle aimait ça, travailler à McDonald's. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, elle va acheter une franchise. Elle aimait tellement McDonald's qu'elle avait une adresse email MecSuperLaura. Quand le service à l'auto était rempli, elle était tellement contente parce que c'est important de faire passer les véhicules rapidement. Parce qu'il y a des cadrans qui évaluent aussi combien de clients tu peux passer à l'heure. Donc, c'était son moment. Et puis, un jour, elle est revenue à la maison. Puis, elle a dit, « Papa, aujourd'hui, quelqu'un est passé au travers du service à l'auto. » Puis, après avoir été passé, il est sorti. Et puis, il a dit que le niveau de service et de gentillesse était tellement élevé là, qu'il était épaté. Je dis, est-ce que ça l'arrive souvent, ça? Jamais. Tu reçois ta nourriture, puis tu t'en vas. Tu ne vas pas arrêter pour aller parler au manager pour dire que c'est si formidable le service. Donc, littéralement, il est sorti de son véhicule, puis il est allé complimenter le manager. Donc, elle est devenue cette personne gentille. Mais aussi, des fois, c'est un défi pour elle parce qu'à 16 ans, elle savait qu'elle n'avait pas une haute éducation. Puis, tout le monde l'a convaincu. Tout le monde l'a convaincu qu'à 16 ans, à travailler chez McDonald's, c'était une personne qui avait comme décroché de l'école. Donc, on avait besoin de la convaincre afin qu'elle réalise. Parce qu'on n'avait pas eu de graduation comme vous allez avoir aujourd'hui. Donc, on a terminé l'éducation à la maison, et puis là, elle était prête à aller travailler. Donc, elle est allée travailler. Donc, on avait besoin de lui parler pour la convaincre. Tu n'es pas quelqu'un qui a décroché, tu as fini ton éducation. Et puis maintenant, ce que tu fais, ça fait partie de ton processus dans la vie. Elle a fait un équivalent sur son éducation. Il y a un livre qu'on peut utiliser et puis passer un examen qui nous donne l'équivalent d'une 12e année. Mais son frère, quand il parle de McDonald's et de Tim Horton, il dit ça, c'est des places de paysans. Puis jamais il aurait travaillé là, des places de paysans. Donc, quand lui, il a terminé sa maîtrise, Finalement, il a travaillé chez Tim Horton. Je n'arrive pas à imaginer que je travaille dans une place de paysan. Puis il a même aimé ça. Donc, il est allé vivre en Afrique pendant 6 mois. Elle essayait de découvrir qu'est-ce qu'elle devrait faire. Son frère allait à l'université, sa vie était toute planifiée. Puis elle se disait, « Bon, mais tout ce que je fais, je travaille à McDonald's. » Puis finalement, quand elle a délaissé McDonald's, elle est allée chez Tim Horton. Puis là, j'ai dit, « Wow, tu progresses dans ta carrière, hein? Ouais. » Cet été, on a eu un visiteur. Et puis c'est comme ça que le Seigneur travaille. Le visiteur était pasteur dans une grande église aux États-Unis. Et puis cet homme-là avait déjà été dans mon groupe jeunesse dans les années 86-88. Et puis je l'avais aidé à sortir de lui-même. C'était un bon musicien. Puis plusieurs années plus tard, il m'appelle, puis il me remercie. Il dit, « Lorne, je ne serais pas où je suis aujourd'hui si tu ne m'avais pas aidé, puis poussé, puis m'aidé à sortir de ma coquille. » Donc, il est venu nous visiter pour voir un peu qu'est-ce qui se passait avec nous dans notre maison. Mes filles étaient là. Donc, il est en Virginie dans une église. Et puis, c'est lui qui est responsable pour les arts créatifs et de la musique. Il dit, « En passant, si quelqu'un d'entre vous serait intéressé à venir à notre église, pour faire, par exemple, un internat, un stage, on aimerait tellement ça. Puis le but de l'internat, on ferait ça selon leurs intérêts, juste pour voir si ça pourrait être quelque chose qu'ils aimeraient faire dans leur vie ou pas. Là, j'ai commencé à penser, puis je me suis dit, peut-être que Laura pourrait y aller. Puis là, elle écoutait, puis une fois qu'ils étaient partis, ils ont pris le bateau pour retourner à la maison en Virginie. On a commencé à avoir une conversation avec Laura. Et peut-être que tu devrais y aller, puis passer un peu de temps dans cette église-là. Parce que de toute façon, à ce moment-là, elle avait perdu son travail. Donc, tu pourrais considérer ça. Donc, après quelques heures, parce que Laura, elle aime l'aventure. Quand quelque chose termine, elle est prête à aller dans la prochaine. Donc, elle avait terminé un travail. C'est le timing parfait. Donc, j'ai envoyé un texte, puis Laura veut venir, quand est-ce qu'elle peut venir? Donc, elle est allée à l'automne, donc de la fin septembre à décembre. Donc, elle travaillait dans cette église-là, puis son but était de devenir un pasteur pour les médias. Après ça, elle est allée au collège à Vancouver, à Abbotsford. Demandez-moi pas pourquoi mes enfants sont partout. Peut-être qu'ils veulent être loin de nous autres. Donc, au collège, ils ont posé toutes sortes de questions. C'est quoi ton but dans la vie? Puis Laura, elle a dit, moi, je veux être un pasteur qui travaille avec les médias. Le monde, il ne savait même pas de quoi qu'elle pensait. Moi, elle voulait créer des vidéos, utiliser l'Internet, mettre ça sur des sites web, mais elle voulait utiliser ses dons pour l'œuvre de Dieu. Donc, elle a appliqué à l'école à Vancouver. Donc, c'est deux écoles de films à Toronto et à Vancouver. Donc, elle a gradué au mois d'avril. Donc, elle est vraiment fière. Elle disait, « Maman, s'il faudrait que je m'assoie comme David puis que j'étudie l'histoire, là, je mourrais. » Donc, il y a des enfants qui ne veulent pas être assis derrière un bureau. Il y en a qui ne peuvent pas étudier l'histoire. Donc, maintenant, elle fait du design graphique. Donc, quand je regarde en arrière, elle dit, « Maman, ça ne veut rien dire si j'ai un problème de dyslexie. Mon ordinateur a un correcteur. » Maman, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser les outils qui sont disponibles. Et puis, en grandissant, Moi, je disais, utilisons ce qui nous est disponible. Si vous avez un enfant qui est dyslexique, bon, laissez-les utiliser le correcteur. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, elle fait, elle planifie des commerciaux et puis sur son produit fini, l'orthographe est parfaite. Donc, utilisons les outils. Ils vont monter en haut de l'arbre, mais ils prennent un chemin différent. Puis, ils accomplissent leurs objectifs. Puis, dis maintenant comment elle a trouvé son dernier emploi. Donc, j'étais en ligne, puis je regardais différents sites web, puis je lui ai envoyé un lien. Puis elle a regardé et dit, « Wow, ce serait un travail intéressant. » Elle a fait une application, c'est un travail avec une église. Puis là, elle se demandait, « Oh, est-ce que je veux travailler dans une église à temps plein? » « Ouais, peut-être. » Puis l'autre partie d'elle disait, puis quelque chose dans elle lui disait, « Wow, tu devrais travailler dans le monde, puis être impliqué dans le monde, là, vraiment. » C'était une job, c'était un travail à temps partiel, mais elle ressentait que c'était là où Dieu la voulait. Puis le pasteur de l'église, quand il l'a interviewé, il l'a dirigé vers quelqu'un dans l'église qui a une compagnie de multimédia. Donc maintenant, une histoire longue, courte, elle travaille à temps partiel pour une compagnie multimédia, puis à temps partiel avec l'église. Donc, Burlington, en Ontario. Donc, si on pense à acheter une voiture usagée, donc, elle voulait voyager à travers le pays. Donc, elle a acheté une voiture à Vancouver, est allée il y a 2 semaines à Calgary en voiture, et puis, ils ont traversé le pays en voiture. Donc, elle a beaucoup de buts dans la vie. Peut-être que vous avez des enfants comme ça. Ils ont besoin de listes. Ils aiment ça, faire des listes et puis accomplir des objectifs. Donc, si votre enfant est comme ça, aidez-les à avoir des buts. Donnez-leur des objectifs à accomplir. Notre plus jeune n'est jamais allée dans le système public. On lui a acheté un petit piano, puis elle est très musicale, elle a beaucoup de talent, elle joue de la guitare, du piano. Donc, elle a commencé à être impliquée dans une troupe de théâtre. Donc, c'était une fille qui était très timide. Donc, ces activités-là l'ont aidé à sortir, donc sortir de sa coquille. Ça l'a ouvert un monde nouveau devant ses yeux. À notre association avec les autres personnes qui font l'école à la maison, des fois, on ouvrait un programme à la télévision. Et puis, il y avait un documentaire sur 100 Huntley Street. C'est un collège chrétien qui avait un programme de théâtre incroyable. Puis là, elle se disait, « Wow, maman, on devrait regarder ça. » On l'a un peu oublié. Et puis un jour, elle était sur Facebook, puis il y avait une annonce qui apparaissait. Le Rocky Mountain College était là. Hey, c'est ça qu'on a vu l'année dernière. Puis on a regardé ça. Et puis elle a été acceptée à ce collège-là. Et puis au mois d'avril, elle a gradué avec un programme dans théâtre. Donc cet été, elle se prépare pour une très grande pièce de théâtre. Donc, elle va être dans une pièce sur la passion du Christ. Elle va jouer la partie de Marthe, la sœur de Lazare. Vous vous rappelez, quand Jésus était en retard, quand Jésus est allé voir ses amis. Donc, elle disait, « Wow, j'ai hâte de parler à Jésus pour lui dire qu'il aurait dû arriver plus de bonheur. » Donc, elle a beaucoup de talent, elle aime la musique, elle chante beaucoup. Et puis, à son école, elle a eu 2 mentions spéciales pour une personne qui s'est beaucoup améliorée. Donc, des fois, je pense qu'en tant que mère, je n'ai pas fait ça. Je ne prends pas de crédit pour ce que j'ai fait. Elle a pris des leçons de voix. Et puis, quand ils ont fait un programme pour Noël, c'était la chanteuse principale. Donc, beaucoup de talent. Puis notre petite fille, finalement, avait un solo à faire. Puis là, je me disais, comment est-ce que ça s'est arrivé, ça? Puis là, tu te dis, il me semble que j'ai rien eu à faire avec ça. Mais en même temps, je sais que le Seigneur m'a aidé en tant que maman de les garder à la maison, bâtir du caractère, de la confiance en eux, puis de les aider à être prêts pour voler hors du nid. Donc, c'est ça que vous avez à faire. Bâtissez du caractère et de la confiance. Et puis, quand le temps va venir de partir, elle était prête à partir. Puis maintenant, nos trois enfants ont dit, on revient plus, hein? On revient plus à Terre-Neuve. Vous savez, à Terre-Neuve, c'est une île, il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans les domaines où est-ce que eux, ils veulent développer. Ils ne vont pas travailler de la pêche. Donc, nos enfants sont sur la terre ferme, loin. Mais c'est vraiment le fun de voir comment est-ce qu'ils se sont aventurés dans le monde et puis que ça va bien. Et puis moi, je donne beaucoup de crédit à l'aide du Seigneur et le fait qu'on a fait l'école à la maison. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, qu'est-ce que tes enfants vont faire? Je me serais dit, je ne sais même pas s'ils vont pouvoir aller à l'université, s'ils vont être acceptés, ils ont fait l'école à la maison. Mais toutes les portes se sont ouvertes en son temps. Puis je n'aurais pas pu prévoir ces choses-là. Maintenant, nous autres, on est pas mal en avant ici sur ce pèlerinage. Vous ne pouvez pas voir où vos enfants vont aboutir. Mais maintenant que je suis plus loin, je peux regarder en arrière, puis je peux dire, « Wow, Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as aidés, tu nous as appelés hors du service, hors des écoles publiques. On a eu des difficultés financières dans toutes sortes de domaines. On a parlé peut-être un peu de sacrifice. Moi, je n'ai pas de pension de professeur. Je n'ai pas de pension, je n'ai pas de plan de retraite. Mais mes enfants aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur. Et puis, ils sont sur le bon chemin. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir perdu cette pension-là. Donc, je vais laisser ça entre les mains de Dieu. Et puis, Dieu va pourvoir comme il l'a fait dans le passé. Donc, peut-être quelqu'un pourrait dire, ouais, « c'est facile pour toi de dire tout ça. Tes enfants, ils s'en sortent bien. » Mais par contre, je ne le savais pas dans le passé. Je n'aurais pas pu dire que quoi que ce soit, ça serait passé. Donc, je veux vous encourager à soyez constant, soyez fidèle à votre appel, continuez à progresser vers l'avant, continuez. Ça, c'est mon conseil pour vous. Si vous regardez la prochaine diapositive, vous comparez ça ensemble, il y a une grande différence. Ma petite fille, de gauche à droite, il y a une grande différence. Donc, à droite, elle rentrait au collège Rocky Mountain. Après ça, c'est la graduation. Donc, à gauche, en haut, elle chante. On voit qu'elle est pleine de confiance. Le fait que nos trois enfants sont prêts à partir de la maison, puis à aller de l'avant, à partir et vivre, pas juste au Québec ou au Nouveau-Brunswick, mais de littéralement à l'autre bout du pays, où est-ce qu'ils n'ont pas le même support à partir de la maison, mais sentir la direction de Dieu pour le faire et puis qu'ils sont capables de le faire. Moi, je crois que ça vient de l'école à la maison. La confiance vient de ce qui se passe à l'école à la maison parce que beaucoup de leurs amis sont encore à Terre-Neuve, dans les mêmes circonstances, ils font la même chose, puis ils n'ont pas pris de pas pour sortir de leur petit cercle. Nos enfants... Puis je me dis, quand je pense au passé, comment ça s'est arrivé? Ils ont la confiance de s'aventurer puis de faire des choses. Mes enfants ne sont pas bons en mathématiques. Je pense à ça. Et puis ça, c'était un de mes défis quand je faisais l'école à la maison. Je me disais, ils ne connaissent pas assez de mathématiques, ils ne connaissent pas assez de sciences. Mais ils n'ont pas suivi un chemin où c'était si nécessaire. Donc, ils en ont reçu assez pour comprendre c'est quoi un rabais, multiplier, soustraire. Ils vont être corrects. Il y a des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Je vais quand même dire une chose ici en terminant. Il y a des temps difficiles dans la vie d'une personne. Et puis, certains de ces temps-là ont été décrits aujourd'hui. Il y a eu des temps sombres dans nos vies. Il y a des temps sombres quand on fait l'école à la maison. Il y a des temps qui nous mettent au défi quand on se demande quel va être notre futur. Mais la Bible nous dit que dans les temps sombres, il y a des trésors. J'essayais de trouver le verset, mais là, c'est dans Ésaïe quelque part. Donc, il y a seulement 60-quelques chapitres. Vous pouvez tout... Des trésors dans les ténèbres. Dans des temps qui nous mettent au défi, il y a des trésors. Il y a des richesses cachées. Et puis, je crois que dans nos temps difficiles, quand c'est nécessaire, Dieu se manifeste et fait des choses formidables dans nos vies. Donc, ne soyez pas si pris dans les choses à court terme, les choses qui vous sont demandées. Pensez au-delà, en dehors d'eux. Dieu a pris Abraham et l'a sorti de sa tente et lui a dit, « Regarde à toutes les étoiles. Regarde à tout ce qui est là. » Dieu a changé ses horizons. C'est ce que l'école à la maison a fait pour nous. Ça a changé nos horizons, de sorte que maintenant, on ne fait pas juste regarder le plafond, quelque chose qui est proche, quelque chose qui nous limite, mais Dieu nous a amenés au-delà. Il nous a amenés à regarder l'univers, toutes les étoiles, à regarder ce qui est vaste et grand. Et puis, ça nous a aidé à donner la confiance à nos enfants pour qu'ils puissent faire face à ce grand monde. Amen. Ça a été tellement un privilège pour nous d'être avec vous pendant ces quelques jours. On vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse le restant de cette journée.